9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. Je reçois ce matin Jonathan Curiel qui publie La société hystérisée, le portrait d'un pays rendu hystérique par les émotions et les certitudes des uns et des autres. Et l'on reviendra sur Gustave Eiffel avec Christine Cardellan, la directrice de l'usine Nouvelle. Était-il comme dans le film avec Romain Duris? Se pourrait-il qu'à l'origine de la tour Eiffel, il y ait une histoire d'amour? On va le savoir. On terminera l'émission sur la disparition programmée du ticket de métro parisien. Le carnet n'est déjà plus en vente dans un tiers des stations. En 2025, il n'y aura plus de tickets du tout. Grégoire Tenal, auteur d'une petite histoire du ticket de métro parisien, lui rendra l'hommage qu'il mérite.
Europe 1.
Bonjour Jonathan Curiel.
Bonjour.
Vous êtes directeur général adjoint des programmes d'M6. Qu'entendez-vous par une société hystérisée, puisque c'est le titre de votre livre aux éditions de l'Aube?
Oui, absolument. Alors une société hystérisée, c'est une société qui est marquée par une certaine violence des rapports sociaux, par une banalisation de l'affrontement sur les réseaux sociaux, par une dégradation notable du débat public en France et dans le monde, et qui est marquée par une espèce de perte de raison, de folie, d'emballement collectif qui s'empare de ces sociétés et qui, justement, lui font perdre un peu raison.
À chaque fois, on cite les réseaux sociaux, vous venez de le faire, ce seraient les réseaux sociaux qui favoriseraient l'hystérisation. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs ?
Bien sûr. Alors, les réseaux sociaux sont souvent mentionnés parce qu'ils existent depuis une quinzaine d'années et, si vous voulez, sont un peu le ciment de cette hystérisation pour un certain nombre de raisons que je détaille dans le livre, et notamment parce qu'ils sont le lieu aujourd'hui où l'affrontement est banalisé et parce que c'est un endroit où il y a une vraie fonction performative, c'est-à-dire qu'on y véhicule sa façon de voir le monde, sa façon de penser, de manger. C'est devenu des lieux identitaires, donc beaucoup plus violents et qui favorisent l'affrontement. Où on augmente notre puissance d'agir, contrairement à d'autres types de médias où on transmet de l'information. Aujourd'hui, on échange pour affirmer son identité et pour l'imposer. Donc c'est ça ce qu'on générait les réseaux sociaux. Après, évidemment, il y a d'autres causes. Il y a un certain emballement médiatique sur certains sujets et la nécessité du clash, du buzz pour se faire une place sur ce qu'on appelle le marché de l'attention. Aujourd'hui, il y a une profusion de canaux de diffusion et pour exister, il faut se faire remarquer. Donc nécessairement, on repère la petite phrase qui fera du buzz, on cherche le clash et ainsi de suite. Et puis, en second rideau, il y a beaucoup d'explications plus souterraines, plus profondes, que sont la montée de la colère dans nos sociétés contemporaines, que sont la fragmentation des sociétés qui ont été décrites par de nombreux sociologues et par des analystes comme Christophe Guillouis, comme Jérôme Fourquet. Il y a également une perte de récit de nos sociétés aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est dans le clash, dans les réseaux sociaux, dans la petite phrase, et on a perdu la vision un peu macro sur nos sociétés, et donc le récit s'est un peu effiloché, et les gens ont besoin de cela pour faire communauté.
Il y a justement une nostalgie de la communauté, de l'unité nationale, mais a-t-elle jamais existé? Est-ce que les Français n'ont pas toujours été, alors sans les qualifier d'hystériques, mais justement engagés, déterminés, tranchés?
Alors oui, c'est tout à fait juste. Il y a une espèce de... D'ailleurs, on le voit dans notre petit monde médiatique, d'une certaine manière, il y a une profusion d'émissions de débat en France. Contrairement à d'autres pays, on adore débattre. Vous êtes très bien placé avec votre historique pour en témoigner. On adore débattre, expliquer, échanger. La différence, c'est qu'à l'époque, on a eu par exemple des émissions comme Droit de réponse où c'était un peu surjoué, où il y avait cette espèce de côté un peu clivé, tranché, mais on s'en amusait. Aujourd'hui, on se prend plus au sérieux et on vit plus de ce côté clivé, tranché et de ce côté binaire que traduisent aussi un peu les chaînes d'information. On doit être pour ou contre. Aujourd'hui, avec les phénomènes comme l'immédiateté et la vitesse, on doit se positionner très vite sur une problématique. On croule sous les experts qui vous permettent d'avoir un kit d'opinion très rapide. Et donc, on est beaucoup plus dans la certitude, l'affirmation de soi et le fait de devoir choisir une opinion que dans le doute, la nuance ou le temps de se construire une pensée. Et on est dans un culte de l'opinion absolue.
Jonathan Curiel, la grande révolution, évidemment, c'est Internet. Le moment où tout le monde a pu devenir émetteur, notamment sur les réseaux sociaux. À partir du moment où tout le monde peut devenir émetteur, tout le monde peut émettre une opinion sur un sujet quel qu'il soit. Autrefois, quand on n'était pas d'accord avec ce qui se disait dans l'émission de Michel Pollack, Droit de réponse, on écrivait à Télé 7 jours. Mais bon, la plupart du temps, la lettre finissait à la corbeille. Aujourd'hui, on fait partie d'un grand tout qui s'appelle Internet.
C'est très juste. Alors, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que les réseaux sociaux.
Ah non, non, je les condamne pas pour autant, oui, hein, mais c'est ça ce qui a changé.
Oui, alors c'est ça qui a changé, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, ce qu'on disait au bistrot ou en bas de chez soi, est devenu public. Et donc, il y a une espèce de dissolution entre l'espace privé et l'espace public. Aujourd'hui, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on s'affirme sur les réseaux sociaux, on y révèle tout ce qu'on pense, etc., avec une fonction performative beaucoup plus puissante, plus l'anonymat aussi, qui fait que on est beaucoup plus violent quand on est caché derrière son écran qu'en vrai. Et ça remonte à l'Antiquité, il y a Platon qui avec son allégorie de l'anneau digeste, c'est-à-dire que quand on est planqué, on est beaucoup plus violent et on va beaucoup plus loin dans l'affirmation de soi. Et donc effectivement, Internet a démocratisé le fait de la prise de parole des uns et des autres, et effectivement, chacun est devenu émetteur.
Ça provoque aussi, dites-vous, un désengagement important de tous ceux que, au fond, ce fanatisme qui est de rigueur aujourd'hui sur les réseaux sociaux notamment, tous ceux que ce fanatisme rebute, ils sont nombreux quand même, les adeptes de la nuance, du doute, de la critique réfléchie, du débat intelligent, tout cela au fond, ils sont en train de se retirer.
Oui, alors c'est l'un des dangers que je pointe dans ce petit livre, c'est-à-dire que à la fois vous avez un petit monde qui peut être intellectuel, médiatique, etc., une espèce de toute petite société de microcosme qui vit dans ce côté binaire, duel, de culte de l'opinion, de l'émotion, hyper réactif. Et ma conviction, c'est qu'une très grande partie de la population et de la France, et même des États-Unis, même sous le phénomène Trump, sont étrangers à tout ça, et donc du coup, phénomène direct de cette hystérisation des sociétés, se désengagent totalement de la vie publique, se sentent pas du tout concernés par ces emballements, par cet emballement collectif, par cette perte de raison, et donc du coup ont tendance à se recentrer sur, mais on le constate d'un point de vue sociologique, sur la maison, sur le chez-soi, deviennent plus nostalgiques, viennent chercher à la télévision des programmes de réconfort, ce qu'on appelle un peu la télé-doudou, et donc du coup c'est un peu une espèce de stratégie de l'escargot, où on se replie sur soi et on se retire un peu de cette vie publique totalement hystérisée.
Les avis tranchés, dites-vous, sont devenus identitaires. Mon avis, c'est moi. Mais on pourrait dire aussi qu'ils sont devenus religieux. Au fond, la foi, c'est ce qui n'a pas besoin de preuves. Et beaucoup d'opinions aujourd'hui relèvent de la foi. Il y a quelque chose de religieux dans l'adhésion ou dans la détestation. Et la fameuse phrase qu'on fait dire à André Malraux, le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas, peut-être après tout, fait-elle allusion à ça.
Oui, c'est tout cette mouvance autour de la perte de nuance, de l'affirmation de soi dans ses opinions, le fait de vouloir cliver à tout prix pour exister, pour se faire repérer. Et donc effectivement, aujourd'hui, il y a contrairement, alors que le dialogue devrait justement, et le débat public devrait consister à problématiser des problèmes, les mettre sur la table pour en débattre, en discuter. Je rappelle d'ailleurs que l'étymologie du mot débat veut dire éviter de se battre. C'est-à-dire, était à la base pour éviter l'algarade, le fait de se mettre un peu sur la gueule. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu la définition même.
Le débat, c'est la démocratie. Le clash, c'est la guerre civile.
Absolument. À la base, on débattait pour justement éviter la guerre civile et éviter la violence physique. Alors que justement, la discussion permet d'éviter cette violence sociale et physique.
On fait une pause, Jonathan Curiel. On se retrouve juste après.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Mon invité, c'est Jonathan Curiel qui publie aux éditions de l'Aube La société hystérisée. Je me demande, comme beaucoup, mais en quoi c'était différent avant ? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a les réseaux sociaux et c'est facile de leur mettre tout sur le dos. Je me dis qu'il y avait beaucoup de sujets dans les années 80 où le débat n'était pas permis, où régnait un consensus de façade, l'Europe, l'euro, enfin l'euro quand c'est arrivé, sur le libre marché, sur le progrès, sur l'humanitaire, sur les droits de l'homme, sur SOS racisme, sur la mondialisation. On n'écoutait pas ceux qui avaient des doutes ou on les faisait taire. C'était plus facile justement parce qu'il y avait, il n'y avait pas Internet. Et je me demande si ce que l'on vit aujourd'hui, cette société hystérisée que vous nous racontez, Jonathan Curiel, si elle n'est pas un peu le produit de cette époque-là, de ce faux consensus.
Peut-être qu'elle trouve ses racines dans ces années 80. La différence qu'on peut y voir, c'est que aujourd'hui, on a quand même pas pour revenir aux réseaux sociaux, à la sphère médiatique et aux raisons un peu plus profondes de qu'on a décrit pour expliquer l'hystérisation contemporaine. Mais on a l'impression aujourd'hui que l'hystérisation est partout, tout le temps. Dans les années 80 et avant, j'en donne quelques exemples dans le livre, on avait l'impression que l'historiation était bornée à certains sujets et elle était localisée et à la fois bornée dans le temps. Aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est beaucoup plus diffuse de par le fait d'être charriée par la sphère médiatique, par les réseaux sociaux, de s'expliquer par des sociétés beaucoup plus polarisées que dans les années 80. Aujourd'hui, on est dans un monde beaucoup plus polarisé.
Que dans les années 80, peut-être qu'on voulait effacer la polarisation.
Peut-être.
Alors, l'hystérie aussi, elle devait être là, mais on ne voulait pas la voir.
Alors, peut-être qu'il y avait une hystérisation en puissance qui était camouflée. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus visible. Elle est beaucoup plus visible, beaucoup plus audible. Et on est face à des sociétés qui sont beaucoup plus polarisées, ça c'est factuel pour le coup, que dans les années 80. Où vous avez, par exemple, pour prendre l'exemple des États-Unis, en 1990, vous aviez 20% des démocrates qui avaient une mauvaise opinion des républicains, et vice-versa. Aujourd'hui, on est à 80%. Et le phénomène Trump a contribué à affirmer cette polarisation. Mais si vous voulez, aujourd'hui, que ce soit en France, on le voit tous les jours avec cette campagne présidentielle et d'autres éléments, on est aujourd'hui dans des pays et des sociétés ouvertes beaucoup plus dures, beaucoup plus polarisées qu'à l'époque.
Et comment peut-on y remédier ?
Alors, il y a toute une série de solutions. Alors, il n'y a pas de solution miracle, mais déjà, on peut réapprendre un peu à discuter, à débattre, à ne pas être dans l'opinion toute faite, clivée en permanence, réapprendre à échanger. Ça passe par des choses assez basiques, mais un peu plus d'humilité dans le débat, c'est-à-dire de moins d'être dans l'affirmation de soi, par retrouver une certaine éthique de la discussion, de laisser parler l'autre, de considérer qu'il peut avoir un avis qui m'apporte quelque chose. Ça peut être aussi des choses aussi basiques que retrouver un peu d'humour, de liberté de parole qu'on a un peu perdu. Il y a aujourd'hui des humoristes, mais c'est vrai qu'il y avait un côté un peu salvateur à l'époque des Guignols de l'info, ces émissions un peu qui critiquaient, ces satires un peu sociales. Aujourd'hui, on n'a plus beaucoup d'humour, plus beaucoup de prise de recul sur nos sociétés. On a aussi cette logique aujourd'hui d'indignation radicale surtout, qu'on peut un peu réfréner. On peut aussi approfondir un peu plus le débat politique, les options qui sont présentées aux gens. On est toujours dans la petite phrase, dans le buzz. On peut aller plus loin dans l'explication, dans le débat. Je pense qu'il y a beaucoup de solutions qu'on peut serrer. Je vous en donnais quelques-unes, il y en a d'autres.
Il y a le ressentiment qui peut y exister aussi vis-à-vis de l'adversaire qui devient par la même occasion un ennemi. Et il faut que le sentiment d'injustice soit exacerbé, que l'on ait l'impression que les inégalités sont à leur comble pour nourrir un tel ressentiment. Il faut qu'on pense que son adversaire est capable de toutes les turpitudes, au fond.
Oui, alors ça, ça fait partie aussi de cette nouvelle société et c'est un des biais cognitifs qui est décrit dans le livre, c'est-à-dire qu'on prend toujours son débatteur comme un adversaire, alors qu'on peut tout à fait considérer, il y a un principe philosophique qui s'appelle le principe de charité, qui a été développé par deux philosophes, qui considèrent à dire que on peut tout à fait considérer Monsieur Taddeï en face de moi comme livrant des propos tout à fait respectables, audibles, sincères, vrais, et partir de ce postulat de départ.
Aujourd'hui, on pensait qu'il est un ennemi qu'il faut abattre.
Aujourd'hui, on est exactement dans l'inverse. C'est-à-dire que vous me parlez, le but dans un débat ou sur une chaîne d'info quelconque, ou dans un débat, dans un dîner familial, on est censé débattre avec l'autre en essayant d'anéantir ses arguments. Alors qu'on peut tout à fait partir du point de vue inverse et essayer de trouver un consensus. Consensus qui aujourd'hui est devenu un mot un peu ringard, d'une certaine manière.
Oui, parce que...
Comme la nuance.
Mais parce que le consensus, au fond, n'existe jamais. L'idée que tout le monde soit d'accord sur un certain nombre de choses, au fond, c'est une fiction.
C'est une fiction, mais en tout cas, on peut essayer d'y tendre et de considérer la personne qui est en face de moi, non comme un adversaire, mais comme un ami de la pensée avec qui je peux débattre et auquel je peux arriver à problématiser, en tout cas, ou à poser un problème sur la table, plutôt que d'être sur un ring en enfilant des gants de boxe.
Jonathan Curiel, il y a eu des époques plus polarisées que d'autres. En tout cas, c'est comme ça qu'on s'en souvient. Je pense à l'affaire Dreyfus, je pense à la guerre froide, le macartisme aux États-Unis, la guerre d'Algérie en France, l'invasion de l'Irak par les États-Unis plus récemment. Aux États-Unis, c'était très polarisé. La crise des subprimes, c'est au fond peut-être la conséquence d'un phénomène d'hystérie collective. On le voit bien dans un film comme The Big Short d'Adam McKay, la bulle immobilière, c'était un peu comme les armes de destruction massive de Saddam Hussein ou l'hydroxychloroquine, une croyance qui n'acceptait pas qu'on la remette en question. Et c'était tout ça, c'était avant les réseaux sociaux. Mais je veux dire par là que ça s'est arrêté, donc ça s'arrêtera peut-être aussi chez nous.
Oui, alors comme je vous le disais, c'est vrai que c'était des phénomènes d'hystérisation très qui ont toujours existé, mais très localisés. Et donc effectivement, vous donnez le modèle économique. L'hystérisation a toujours existé. Le président de la Banque centrale américaine parlait d'exubérance irrationnelle des marchés, avec marqué par des phénomènes d'hystérisation qui ont marqué l'histoire de l'économie.
Merci Jonathan Curiel. La société hystérisée, c'est aux éditions de l'Aube. On se retrouve dans un instant avec Christine Cardellan. On va parler d'Eiffel, le film. Et de Gustave Eiffel, le vrai.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Eiffel, le film avec Romain Duris, est sorti mercredi sur 685 copies. C'est une grosse production franco-allemande de plus de 23 millions d'euros, réalisée par Martin Bourboulon, racontant une histoire d'amour qui serait à l'origine de la tour Eiffel. Alors, nonobstant les qualités du film, il est intéressant de savoir ce qu'il y a de vrai dans ce qu'il nous raconte. Christine Cardellan, bonjour. Vous êtes directrice de la rédaction de l'Usine Nouvelle et vous avez publié il y a quelques mois La vraie vie de Gustave Eiffel chez Robert Laffont, un roman là aussi, mais un roman très documenté. Alors ma première question est simple, Gustave Eiffel a-t-il eu une histoire d'amour avec une certaine Adrienne ?
Oui, effectivement, il a eu une histoire d'amour avec Adrienne Bourgès. Elle a failli être sa fiancée. L'histoire a duré à peu près 3 mois. Il allait dîner tous les jeudis et tous les dimanches chez les parents. Elle avait déjà brodé les initiales AE, donc Adrienne Eiffel, sur un trousseau. Et puis les parents finalement ont empêché le mariage. Probablement lorsqu'ils ont enquêté sur la famille de Gustave Eiffel et appris que ses parents étaient, comment pourrait-on dire, des nouveaux riches.
Sa mère était négociante en charbon, je crois que ça avait choqué la bourgeoisie bordelaise de l'époque.
Voilà. Alors, est-ce que la mère de Gustave Eiffel était une entrepreneuse, ouais. Une des premières entrepreneuses de France.
Alors Adrienne s'est-elle mariée à la place avec un journaliste ami de Gustave Eiffel, comme dans le film, et se sont-ils revus ?
Alors non, elle ne s'est pas du tout mariée avec Antoine de Restac, comme on le dit dans le film. Elle s'est mariée avec un entrepreneur, un fils d'entrepreneur, plutôt bordelais, comme son père. Et d'ailleurs, elle s'est mariée avec un garçon qui s'appelait Jules III, et sa sœur Françoise s'est mariée avec le frère de Jules III qui s'appelait Émile III. C'est-à-dire qu'on a vraiment gardé les deux entreprises dans la famille en mariant les deux garçons avec les deux filles.
Alors je me souviens qu'en 2019, une bande dessinée intitulée « A comme Eiffel » racontait un peu la même histoire, mais avec sa cousine Alice, dont il aurait été amoureux depuis son plus jeune âge et que l'on n'aurait pas voulu qu'il épouse. D'abord, est-ce que c'est vrai cette histoire ? Et se pourrait-il qu'à l'origine de la tour Eiffel, il y ait une histoire d'amour ? Quelle est la forme d'un « A » comme Alice ou comme Adrienne ou comme amour ?
L'histoire avec Alice, en fait, Alice était sa cousine germaine. Il avait 9 ans et demi, il en avait 14. Donc il était amoureux d'elle, il embrassait son portrait dessiné à la mine de crayon qui était affiché dans l'entrée chez sa grand-mère, mais ce n'est jamais allé plus loin. Simplement, dans ses mémoires industrielles, Gustave Eiffel fait allusion à la petite Alice, et c'est lui qui raconte même qu'il a embrassé son portrait à la mine de crayon. Donc il a été amoureux quand il était enfant
d'une Alice.
Certaine Alice et...
Alors, tous ces A, forcément, ça tourne la tête de tous les scénaristes. Hein, tous ces A.
Si c'était lui qui avait dessiné la tour Eiffel, on pourrait dire qu'effectivement, c'est un hommage à la fois à Alice et à Adrienne. Le problème, c'est que l'idée de la tour Eiffel, elle a été conçue par deux de ses ingénieurs, Émile Nouguier et Maurice Coquelin, qui lui ont proposé d'abord une espèce de pylône de pont trêlé sur lequel on ne pouvait pas monter, qui ressemblait vraiment à une ligne de tension, si vous voulez. Et il n'y a pas cru du tout. Il leur a dit, il n'a pas voulu les décourager totalement. Il leur a dit, allez voir notre architecte, Stéphane Sauvestre. Et Stéphane Sauvestre a amélioré le projet de Coquelin et Nouguier en faisant la tour Eiffel telle qu'elle est aujourd'hui, avec une forme effectivement de A. Alors moi, dans mon roman, qui est quand même 95% vrai, j'essaie d'imaginer que toute sa vie, il a dessiné, vous savez, des A sur la buée des fenêtres pour Alice ou pour Adrienne, et que la tour Eiffel, effectivement, une fois construite, lui rappelait aussi Alice et Adrienne. Mais c'est pas lui qui l'a dessiné, donc on ne peut pas dire qu'elle a été faite par amour pour Adrienne.
Est-ce qu'il a sauvé la vie d'un ouvrier en plongeant dans la Garonne, comme dans le film ? Gustave Eiffel.
Oui, tout à fait. L'année où il a construit la passerelle, le pont de Bordeaux, un ouvrier est tombé dans la Garonne et il a plongé, il l'a sauvé. D'ailleurs, quelques mois plus tard, Il a sauvé également une famille qui était dans une barque emportée voilà, sur la Garonne également. Et dans les deux cas, les journaux se sont fait l'écho de ces sauvetages. Alors il faut dire que Gustave Eiffel était très entraîné, hein. Il était pendant toutes ses études à Centrale, il allait plusieurs fois par semaine à la piscine de Ligny, où il avait à Paris, où il apprenait à nager, où il apprenait à faire des sauvetages. Il avait eu des médailles en la matière, donc il était très entraîné, mais tout ça est vrai.
Alors Gustave Eiffel, c'est vraiment un génie, c'est un très grand entrepreneur qui a fait ses preuves sur des chantiers gigantesques pour l'époque, hein, le pont ferroviaire de Bordeaux, la gare de Verdun, la gare de Budapest, le viaduc de Garabit qui était le plus haut du monde, la statue de la liberté dont il a conçu l'armature de fer qui est à l'intérieur de la statue. C'était vraiment le constructeur de l'extrême, hein. Je crois que c'est l'expression que vous employez.
Oui, c'est l'expression qui était employée à l'époque. Tout ce qu'il faisait était assez spectaculaire. Il savait très bien là aussi le médiatiser en quelque sorte, le mettre en avant. Il était ami avec plusieurs journalistes et il leur donnait ses projets en avant-première. Et donc effectivement, il a fait des choses extraordinaires. Il était aussi un inventeur et un expérimentateur de premier ordre, hein. Il a amélioré énormément les techniques de construction des ponts métalliques, notamment pour le lancer de ce qu'on appelle le lancer du tablier, hein, quand on veut lancer la droite sur laquelle passeront les trains. Il a amélioré énormément, il a déposé des dizaines de brevets. C'était vraiment une époque où la France rayonnait dans le monde entier et où Gustave Eiffel était vraiment un des représentants de cette France conquérante qui inventait beaucoup de choses à l'époque, l'aéronautique, l'automobile, le cinéma, etc. Gustave Eiffel était un des représentants de cette France glorieuse et innovante.
Alors, il y a beaucoup de choses, en revanche, qu'on ne sait pas sur Gustave Eiffel et que j'ai découvert en lisant votre roman. On fait une pause, Christine Cardellan, vous allez nous les raconter.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Nous sommes avec Christine Cardellan, l'auteur de La vraie vie de Gustave Eiffel, qui est paru chez Robert Laffont. Ce qu'on a oublié ou ce qu'on ne sait pas aujourd'hui sur Gustave Eiffel, mais qu'on savait très bien à l'époque, c'est qu'il était d'origine allemande. Il s'appelait Bönninghausen, ce qui n'était pas facile à porter comme nom après la défaite de 1870 et la perte de l'Alsace-Lorraine. Si bien qu'en 1874, à l'âge de 42 ans, il va changer de nom par décret. Que s'était-il passé exactement ?
Il était accusé effectivement d'être allemand et d'être un juif allemand, alors que d'une part il n'était pas du tout d'origine juive, mais par ailleurs il était d'origine allemande, mais depuis plusieurs générations, c'est-à-dire que ses parents étaient nés en France, il était né en France, et ses origines allemandes remontaient à trois générations.
Et alors on dit que ce serait un dessinateur, je crois, qu'il avait accusé d'être un espion allemand, que ce serait pour ça qu'il aurait changé de nom.
Oui, effectivement, comme souvent les gens qui ont été maltraités essaient de se venger, et donc utilisant son vrai nom qui était Bönninghausen, dit Eiffel, mais lui n'utilisait que Eiffel, hein, dès d'ailleurs ses années d'étudiant, mais donc cet ouvrier qui savait qu'il avait que Bönninghausen était son vrai nom, on a profité pour essayer d'en tirer des conclusions désagréables, j'allais dire.
D'ailleurs, parmi les critiques, elles étaient nombreuses, que l'on faisait de la tour Eiffel au moment de son érection, il y avait qu'elle était allemande.
Oui, effectivement, même si Hitler n'a jamais pu y monter, puisqu'on a réussi à l'en empêcher à l'époque où il est venu à Paris, mais on disait qu'elle était allemande parce que Eiffel était supposé, les mauvaises langues disaient qu'il était allemand. Mais ça n'avait pas vraiment de sens.
Est-ce que c'est vrai d'ailleurs, comme le laisse entendre le film, qu'il ne voulait pas construire la tour Eiffel, Gustave Eiffel, que ça ne l'intéressait pas au fond ?
C'est-à-dire que quand ces deux ingénieurs lui ont montré leur projet, il n'a pas du tout été enthousiaste. Cette espèce de pylône de pont tout raide, tout droit, qui n'avait aucune utilité pour la science, sur laquelle on ne pouvait pas monter, enfin qui servait à rien, c'est juste un pylône de pont le plus haut du monde parce que c'était 300 mètres. Donc il n'était pas du tout enthousiaste. En revanche, quand son designer, son architecte Stéphane Sauvestre en a fait quelque chose de joli et ensuite d'utile, parce que c'est lui, Gustave Eiffel, qui a proposé qu'on fasse des expérimentations de TSF en haut de la tour Eiffel, qui a proposé de faire des expériences d'aérodynamique, des expériences d'hématologie, hein, sur le corps humain en montant à 300 mètres, quelles étaient les conséquences, etc. Là, c'est devenu quelque chose d'utile et qui l'intéressait. Donc lui, c'est un projet complet qu'il a voulu proposer et pas juste un pylône de pont. Le pylône de pont ne l'intéressait pas.
Alors, on a également oublié qu'à 57 ans, au moment de l'inauguration de la Tour Eiffel, Gustave Eiffel est au sommet et que 2 ans plus tard, il est condamné à 2 ans de prison ferme pour abus de confiance dans l'affaire du canal de Panama. Le canal de Panama, c'est le contrat du siècle. Hein. Il avait construit, fabriqué les 8 écluses. Ça lui avait rapporté beaucoup d'argent, alors que les petits porteurs qui avaient souscrit à l'emprunt, eux, avaient tout perdu. Et là, il dégringole complètement, Gustave Eiffel. Son triomphe aurait été de courte durée.
Oui, il a même fait 8 jours de prison en juin 93, avant d'être, alors non pas innocenté, mais en tout cas blanchi par la cour d'appel. Mais effectivement, il a été accusé d'abus de confiance parce que les juges, disons, poussés par l'opinion publique française, considéraient qu'il n'était pas normal que quelqu'un ait pu s'enrichir au moment de la faillite de la société Panama. Alors qu'en réalité, il ne s'était pas enrichi indûment. C'est-à-dire que lui, il était entrepreneur, on lui avait proposé un contrat, il avait accepté. La société a fait faillite, mais il avait reçu des avances. Et ces avances, il en a rendu une partie, la partie qu'il était obligé de rendre, c'est-à-dire 3 millions de francs sur une quinzaine de millions. Mais les avances, il les avait reçues pour acheter des fournitures et pour... louer des ouvriers en quelque sorte. Donc il n'était absolument pas malhonnête dans cette histoire. Il n'était pas mandataire de la société de Panama, il était un entrepreneur, un fournisseur, et donc il ne s'était pas enrichi indûment. Mais l'opinion publique française était tellement contre lui, c'était tellement invraisemblable que quelqu'un ait pu gagner de l'argent sur le dos en quelque sorte de la société de Panama alors que tous les petits porteurs étaient ruinés. Qu'il a été vilipendé, insulté, critiqué dans les journaux. Enfin.
Et on a retiré son nom, il avait son nom sur un certain nombre de rues, et on a retiré. C'est-à-dire que c'est fou, hein, quand on voit le film, Romain Duris, que l'on voit là, de se dire que 2 ans plus tard, il est condamné à 2 ans de prison et que 5 ans plus tard, il sera en prison, 8 jours à la conciergerie, on se dit c'est dingue.
Oui, c'est incroyable parce qu'il a vraiment connu la gloire maximum, j'allais dire. Il a reçu des souverains des pays d'Iran, d'Angleterre, de divers pays européens pour les faire monter en haut de la Tour Eiffel en 1889. Donc il a eu l'impression vraiment d'avoir atteint le nirvana, en tout cas la gloire dans son pays et bien au-delà. Et puis, 4 ans après, il a été voué aux gémonies et il s'est retrouvé en prison, exactement comme n'importe quel prisonnier de droit commun, n'ayant pas le droit de lire des livres.
Il ne s'en relèvera jamais vraiment, d'ailleurs. Hein. Vous dites qu'il vieillit d'un coup, là.
Oui, il est sorti de sa cellule 8 jours après. Ses cheveux avaient blanchi. Il a pleuré dans les bras de son fils. Et il ne s'est jamais vraiment remis de cette infamie pour lui, même s'il est devenu par la suite alors il a abandonné son entreprise de construction, il a abandonné à son gendre, mais il est devenu un mécène. Il a même obtenu à 81 ans la médaille Langlais, c'est-à-dire l'équivalent du prix Nobel d'aérodynamisme, pour aider les constructeurs d'avions à ne pas sacrifier la vie des pilotes en leur faisant faire des essais très dangereux. Il a créé une soufflerie qui permettait de tester l'aérodynamisme des avions et il a été donc récompensé par l'équivalent du Nobel de la discipline à 81 ans.
Voilà, pour tout savoir sur Gustave Eiffel, il faut lire La vraie vie de Gustave Eiffel, le roman de Christine Kerdelan qui est paru chez Robert Laffont, mais il y a un moment déjà. Merci Christine Kerdelan, on va s'intéresser maintenant aux tickets de métro. Les tickets de métro, c'est bientôt fini. Qu'est-ce qu'on va y perdre? La réponse juste après ça.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Le ticket de métro fait partie de ces objets du quotidien qui se sont hissés au rang de symbole depuis plus d'un siècle qu'il existe. On le croyait éternel, or il ne l'est pas. Il vit ses derniers moments. Depuis cette semaine, le carnet de tickets n'est plus disponible dans une station sur 3. En janvier, ce sera fini. Il sera remplacé par une carte rechargeable. On pourra encore acheter des tickets un par un uniquement au guichet pendant 2 ans et en 2025, terminé. Le ticket de métro en carton, celui que Jean Gabin respirait avec nostalgie dans Pépé le Moko, celui celui que Serge Gainsbourg chantait dans Le Poinçonneur des Lilas, aura définitivement disparu. Grégoire Tonnard, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes l'auteur d'une petite histoire du ticket de métro parisien, paru en 2019 aux éditions Télémac. Vous animez même un site sur internet, histoire du ticket de métro, blogspot.com.
Ouais.
Vous êtes vous-même un hésitériophile, oui. Quelqu'un qui collectionne les tickets rares, comme ceux que l'on voit dans votre livre. Il y en a un qui a été émis la première heure du premier jour, ouais. Le jour de l'inauguration, ouais. De la première ligne, le 19 juillet 1901. Mmh. Il porte le numéro 18.
Absolument.
Qu'est-ce qu'on va perdre avec la disparition du ticket de métro ?
On va perdre deux choses. On va perdre une Madeleine de Proust, parce que beaucoup de gens ont gardé leur ticket volontairement ou involontairement. Et puis, on perd, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez évoqué, c'est une petite icône de l'imagerie parisienne. Un touriste qui vient à Paris, qui va visiter la Tour Eiffel, qui va prendre les bateaux-mouches, qui va aller à Versailles, etc. Fort probablement, il va garder comme trace de son passage son ticket pour monter la Tour Eiffel ou son ticket de métro, parce que on est à Paris quand même. Donc Paris, c'est la capitale touristique par excellence. Et voilà, et donc c'est une trace de son passage. Et on le fait peut-être un peu moins aujourd'hui, mais dans son album photo, on va mettre des photos de lieux qu'on a visités, puis on va coller à côté un petit ticket de métro ou un ticket d'entrée de la Tour Eiffel.
Vous m'avez raconté une anecdote qui n'est pas dans votre livre sur Pablo Picasso. Quand il est mort, ouais. Roland Dumas a été chargé de la succession.
Tout à fait.
Et qu'est-ce qu'il a trouvé ?
On a trouvé des boîtes en carton remplies de tickets de métro. Alors, on n'a pas d'explication.
Chez Pablo Picasso.
Ouais,
que c'est la couleur du ticket qui lui plaisait.
Je ne sais pas. Dans le livre, vous l'avez peut-être vu, à la fin, j'ai présenté certains artistes qui travaillent à base de tickets de métro. Il y a des choses très jolies d'ailleurs. Est-ce qu'il était hésitériophile comme je le suis ? Je ne sais pas. Pablo Picasso, il a vécu avant, pendant et après la guerre. Et comme tout le monde, il se déplaçait en métro, puisqu'il n'y avait pas d'essence, tout ça a été rationné, pas de voiture. Donc, je ne sais pas, on peut imaginer qu'il a gardé ça. Je ne sais pas, c'est une trace de ces périodes. Et puis bon, c'est Pablo Picasso, donc voilà, je trouve que c'était rigolo.
Alors, le ticket de métro a beaucoup changé au cours de son histoire. Il a changé de couleur, il a changé de forme.
Alors, au début, il naît le 19 juillet 1900 à 13h. Il n'y a que trois tarifs et il y a trois couleurs. Donc, en fait, les couleurs, c'est des repères visuels pour le contrôleur. Brun, une espèce de beige clair pour les secondes, rose un peu passé pour les premières, et puis un brun un peu plus foncé avec une barre pour les allers-retours. Voilà. Et en fait, dans son évolution fond, forme, tarification, graphisme, il n'est que l'évolution des modes de transport et donc des modes de vie des Parisiens. Voilà. Et il dit son époque. Quand vous regardez, et vous avez feuilleté le livre, vous regardez un ticket de 1900, la typo, elle dit 1900. Quoi. Voilà. Si je vous parle d'un ticket jaune avec une bande marron, les auditeurs qui nous écoutent, qui ont un peu plus de 40 ans aujourd'hui, savent immédiatement de quoi je parle. C'est en plus, il a été starisé par la publicité avec la fameuse campagne Ticket Chic, Ticket Choc. C'est devenu une icône grâce à la pub.
Les usages qu'on en faisait du ticket de métro, je commence à déjà en parler au passé. Vous racontez beaucoup d'anecdotes avec des personnalités qui ont noté un jour un numéro de téléphone sur ce ticket. On l'a tous fait. Le téléphone portable, c'est là qu'on notait les numéros de téléphone. Il y a une très charmante anecdote là-dessus.
Oui, il y a plein d'anecdotes parce que le ticket de métro, d'abord c'est un titre de transport, mais il a une durée de vie qui est limitée, c'est 1h30 aujourd'hui. Et puis après, très rapidement, et le métro, la RATP d'ailleurs se vantait d'être le plus grand salon de lecture du monde. On lisait des livres avant d'être sur son iPhone ou sur son smartphone. Donc ça servait de marque-page. C'est comme ça que moi, une partie de ma collection, elle vient de tickets qui étaient coincés dans les pages de livres que j'ai pu acheter chez les bouquinistes. Et puis ça a servi de filtre pour les gens qui se faisaient des joints. On a fait de l'origami avec, aussi beaucoup d'origami. On a fait des petites grenouilles qui sautaient en cours. Quel adolescent s'est pas amusé à faire sauter ses grenouilles sur sa table en ticket de métro. Il y a plein d'usages. Donc notez effectivement le numéro d'une jeune fille qu'on a pu draguer sur un quai de métro. À l'époque où il n'y avait pas de portable, c'était quand même très pratique.
Qui dit ticket dit voyage. C'est vrai qu'a priori, dès l'instant où on achetait un ticket, c'était pas un ticket d'avion, c'était même pas un ticket de train, mais quand même.
C'est un voyage, et comme tout voyage, vous pouvez être transporté, il peut se passer des choses, vous pouvez avoir une bascule dans votre vie. Je l'ai raconté effectivement au travers de personnalités qui ont vécu quelque chose dans le métro, donc le temps d'un trajet, et c'est vrai que votre vie, elle peut changer sur un quai de métro. De Funès disait lui-même, je dois ma carrière d'acteur à un métro que j'ai loupé, au métro Vieux Villiers pendant l'occupation, à l'époque où il était que pianiste dans les bars, il n'avait pas commencé à être acteur, et il rencontre Daniel Gélin sur le quai.
Parce qu'il a raté le métro.
Parce qu'il a raté le métro, il attend le suivant, donc il est agacé comme on peut l'être quand on rentre.
Et quand on est Louis de Funès, en minute plus, j'imagine.
Ah oui, doublement agacé, effectivement. Et voilà, donc il y a ça, mais il y a d'autres choses. Et
alors pour finir, il y a Daniel Gélin qui est là et qui Daniel me dit, Gélin, justement, j'ai un rôle qui
voilà,
très bien.
Il s'était connu avant, parce qu'il avait déjà pris des cours de comédie avant la guerre. Il lui dit, mais si tu veux, moi je peux te faire embaucher sur ma prochaine pièce ou mon prochain film.
Non, c'était la pièce de Marc Gilbert Sauvageon,
voilà,
L'amant de paille.
Ça. Et puis, il y a d'autres choses. On peut parler des époux Serge et Béate Klarsfeld qui se sont rencontrés sur un quai de métro à Porte de Saint-Cloud en 1960. Elle était fille au père, allemande, donc évidemment avec allemande dans les années 60, et lui, fils de déporté, dont on connaît évidemment le passé. Et voilà, et leur vie, elle a vraiment basculé lors de cette rencontre. Et ils ont formé le couple que l'on connaît aujourd'hui, avec tout ce qu'ils ont fait d'exemplaire. Bah, ça a démarré sur un quai de métro, le temps d'un ticket.
La première et la deuxième classe, c'est quelque chose que les plus jeunes n'ont pas connu, tout cas pas dans le métro. Ouais. Les métros verts et les métros rouges, avec des sièges en bois.
Oui, alors la première classe, elle a disparu dans le métro en 1991. Et elle a disparu en 1999 dans le RER. Voilà. En fait, elle a disparu une première fois en 1947, au moment où le métro était saturé au niveau de sa fréquentation. Il fallait gagner de l'espace. Donc pendant un an, on a supprimé ça. Puis c'est revenu. Il faut se rappeler qu'en 1947, il y a des ministres communistes au gouvernement, où il y en a eu. Voilà. Et en 82, ben c'est pareil. En 80, François Mitterrand est élu. Il nomme à la tête du ministère des Transports un communiste, qui lui-même nomme à la tête de la RATP un communiste, et qui symboliquement, sur les premières mesures qu'il va prendre, on va supprimer la première classe. Sauf que les services marketing et commerciaux de la RATP lui rappellent que ça ramène quand même un petit peu d'argent, cette affaire-là. Et donc, en fait, il fait un jugement de Salomon pour ne pas se dédire. Et donc, on décide que les premières classes seront maintenues aux heures creuses. Bon, en fait, ça n'avait plus de sens, parce qu'effectivement, le confort entre les deux rames, vous parlez des rames vertes et rouges, où effectivement, on avait des banquettes en bois et d'autres qui étaient rembourrées avec du sky molletonné, etc. À cette époque-là, déjà en 81, il n'y a plus de différence de confort entre les rames.
Mais il y avait donc des différences de tickets. Hein. On achetait un ticket de première ou un ticket de seconde. Ils valent plus cher, les tickets de première, pour les collectionneurs.
Ah, plus cher. Ah bah alors, logiquement, oui, ça devrait valoir plus cher, puisqu'il y a forcément, on en vend moins.
Oui, c'est logique.
Tout à fait. Bon, il n'y a pas une cote démesurée quand même sur les tickets de métro.
Il y a un document dans votre livre, c'est la circulaire interne sur l'application du statut des Juifs sous l'occupation. Ouais. Et on s'aperçoit que c'était la même que dans les bus, dans les États ségrégationnistes du sud des États-Unis. Ouais. Mais ça commençait avec le ticket de métro.
Oui, justement. Alors toutes les administrations françaises ont appliqué le statut des Juifs, dont le métro. Et effectivement, lorsque vous étiez à Paris en 42, porteur d'une étoile jaune, vous ne pouviez pas monter dans n'importe quel wagon, vous deviez aller dans le wagon de queue que les Parisiens ont surnommé, et longtemps d'ailleurs après la guerre, la synagogue, et vous n'aviez plus la possibilité d'acheter de billets de première. Voilà.
C'est par un souci d'écologie qu'on supprime le ticket de métro aujourd'hui?
Ça a été annoncé comme ça. Je ne sais pas si remplacer du carton par du plastique et de la carte à puce, c'est plus écologique. Non, en fait, il y a aussi un souci de fluidification, effectivement, des voyageurs. Il est évident que mettre son ticket, rentrer, il y a un frottement, donc derrière, il y a un risque. Techniquement, les machines tombent en panne, évidemment, ça ralentit, ça freine la fluidité de l'entrée dans les stations. Voilà, donc c'est un côté évidemment pratique. Et puis, il va y avoir, et c'est déjà le cas, sur vos smartphones, vous allez pouvoir payer comme ça. Ça se passe déjà comme ça dans le bus depuis quelques semaines à Paris. Voilà. Il faut dire qu'on est très en retard quand même, hein, au niveau des capitales mondiales à passer
la
dématérialisation.
Nous, notre ticket, il était tellement symbolique.
Il est très symbolique.
Évidemment. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, Grégoire Thomas, qui n'aura plus de ticket? Vous allez continuer votre blog, tout ça?
Je ne sais pas. Heureusement, j'ai d'autres sujets de préoccupation ou d'intérêt dans la vie. Mais moi, c'est quelque chose... Vous savez, c'est des petits morceaux de... Ces petits morceaux de papier cartonné, c'est des petits morceaux de vie, des petites tranches de vie, des petits bouts d'histoire. Moi, j'adore l'histoire, je fais des livres d'histoire. J'aime bien les anecdotes à hauteur d'homme. Quand je vous ai parlé de Funès, où j'aurais pu parler de Michel Morgan, qui me disait aimer l'odeur du métro parce que c'était elle, sa Madeleine de Proust, etc. Moi, j'adore aller chercher des petites choses comme ça, parce que ça dit la vie des gens. Ça dit le quotidien. Lorsque j'ai trouvé le document sur le statut des Juifs, j'ai trouvé chez un collectionneur avec qui j'ai bossé. Je l'ai soumis, et j'avais parlé de ça à Serge Klarsfeld, qui m'a dit, mais bravo, Grégoire, c'est du quotidien. En fait. Et voilà, c'est exactement ça. Je raconte l'histoire quotidienne.
Petite histoire du ticket de métro parisien, c'est paru en 2019 aux éditions Télémac et ça a la forme d'un ticket de métro. Il y a même un trou dedans, ouais, comme du temps on les poinçonnait. Ouais. Merci Grégoire Tena d'être venu sur Europe 1 pour nous rappeler. Pendant très longtemps, on a eu des tickets de métro dans les poches.
Merci à vous. Europe 1.
C'est arrivé, cette semaine est terminée. On se retrouve demain matin à 9h. Vous avez maintenant rendez-vous avec Pierre de Villeneau et les grandes voix d'Europe 1. Quel est le programme, Pierre ?
Eh bien, la gauche en marche ou à coteau tiré, le retour de flamme à droite et Macron dans tout ça.
Merci Pierre, bonne émission.